On a le plaisir d'accueillir Siane Dassonville cet après-midi, qui est consultante, formatrice et coordinatrice du comité d'usagers trans. À l'origine, travailleuse sociale en mission locale autour de l'insertion professionnelle et sociale pendant une vingtaine d'années. Elle a par la suite fondé l'association En Trans en 2014. Elle mène actuellement des accompagnements individuels au CHRS Lescal et notamment à la maison dispersée de santé de Moulins. Elle assure aussi des interventions, formations dans diverses institutions comme l'IRTS, l'Université de Lille, le rectorat à destination des chefs d'établissement. Et elle a intitulé son intervention « Histoire singulière d'un parcours de transition ».
Bonjour à toutes et à tous. Une chose qui n'a pas été dite dans ma présentation, c'est que concernant la question des transidentités, je suis moi aussi une personne concernée. Et donc, je suis très habitué à faire des formations, mais des interventions comme celle-ci, beaucoup moins. Et je dois dire que d'ici, vous êtes tous et toutes très impressionnants. Alors, mon intervention, en fait, prendra appui sur mon expérience personnelle de transition, agrémentée de quelques réflexions, notamment sur la question de la norme et du genre. Et puis après, vous poserez toutes les questions que vous souhaiterez poser. 19 octobre 2012. J'ouvre fébrilement la boîte dans laquelle je découvre une pilule qui s'offre à moi comme la promesse d'une transformation tant attendue, le début de ce que l'on nomme une transition de genre. 30 janvier 2019, j'ouvre les yeux dans une salle de réveil de l'hôpital Huriet à Lille. Je viens de subir une vaginoplastie et comme beaucoup d'autres, je me dis que cette transition est achevée. Le voyage a été long et fastidieux. Mais je suis arrivé à destination, celle d'un corps en adéquation avec son genre ressenti, une femme. Une femme. Vraiment. En cette année 2022, 10 ans donc après avoir pris cette pilule, je ne suis plus très sûr que celle-ci me conduisit dans l'univers féminin où vivent les femmes, assignées femmes à la naissance. Bien que la grammaire m'oblige à utiliser le genre féminin pour parler de moi, je ne me sens pas femme pour autant. Je suis une femme trans, et ça fait la différence. Ce n'est qu'au terme de ce parcours qu'il est possible de conclure ce qui aura été une sorte d'introspection rétrospective, une vision de soi à la lueur de l'expérience du vécu et du ressenti. Cette conclusion serait-elle un aveu d'échec ? Le résultat d'une auto-mystification ? La transition ne serait alors qu'une quête illusoire vers un soi fantasmé. Je ne peux répondre à ces questions qu'en les replaçant dans l'évolution de la psyché, dans l'espace et le temps, dans un système d'interaction entre moi et moi, moi et l'autre, moi et mon environnement, et plus largement encore, au cœur d'un système de normes et de comportements sociétaux. Il est vrai que tant d'éditoriaux de psy nous mettent en garde contre la possibilité infime de se tromper, contre les dérives d'un lobby imaginaire qui, selon eux, tendrait à détruire les valeurs familiales, séculaires, pour imposer son nouvel ordre dans lequel filles et garçons seraient incités à choisir leur genre. Ces mêmes personnes qui voudraient que face à cette souffrance, j'accepte de n'être pas ce que je suis. Ces personnes ne portent pas ma souffrance. Ces personnes n'ont jamais eu à faire face aux questions que je me suis posées. En quoi sont-elles légitimes si ce n'est cette volonté de préserver le confort d'une morale obsolète, mortifère, et l'imposer comme une vérité sans trop autre argument que « ça va de soi » L'injonction binaire qui divise le genre en masculin et féminin sans autoriser d'alternative, oblige à choisir son camp et à adopter les stéréotypes afférents. On peut dès lors considérer que les dés sont pipés car la liberté d'être soi s'en trouve considérablement réduite. inversement proportionnelle aux discriminations qu'elle génère. J'avais 49 ans quand j'ai commencé ma transition. Je suis né en 1963, dans une petite ville du nord de la France. Des parents artisans et commerçants, un environnement assez peu progressiste, voire plutôt réactionnaire. Autant dire que toutes les questions relatives aux thématiques LGBTQIA+, étaient très mal perçues, très peu connues. Elles se limitaient à l'orientation sexuelle, dont les pratiques jugées perverses déclenchaient des réactions d'hostilité, se caractérisant au mieux par un humour douteux, au pire, par de la violence physique. J'en fis les frais, en entrant au collège. Ayant une attitude, une gestuelle manquant de virilité, une agression m'en fit prendre violemment conscience et changer radicalement de comportement. Ce jour-là, mon corps comprit son adaptation au schéma qu'impose la conformité. Il s'est dissocié de l'esprit, il s'est mis à voyager au-delà des limites imposées, au-delà même du ressenti et du vécu. Je suis devenu comme étrangère à moi-même. Alors il fallait s'adapter ou devenir le souffre-douleur. J'ai donc pris des leçons de virilité, juste pour ne plus avoir à subir les foudres de ceux qui alors étaient mes pères, mais dans lesquels je ne pouvais me reconnaître. Ce jour-là, j'ai tué la meilleure part de moi-même pour jouer à un jeu de dupe. J'étais cet enfant qu'on ne choisit que par défaut pour constituer une équipe de foot. Celui qui rechignait à aller avec les autres garçons, mais trouvait toutes sortes d'excuses pour assister sa mère à la cuisine ou rêvasser dans les comics, être une super-héroïne, ou par je ne sais quel prodige, le petit garçon devenait une plantureuse jeune femme dotée de super-pouvoirs. Plus tard, lors des regroupements familiaux, il fallait suivre les activités des hommes pendant que les femmes papotaient chiffon en sirotant un café. Je les enviais. Se cacher, dissimuler ses préférences, enfuir cette identité gênante. Pour qui ? Pourquoi ? Pour être tranquille, ne plus être une cible. Est-ce que j'étais vraiment crédible ? 30 années à se taire de honte, 30 années d'une souffrance sourde et coupable que seuls les antidépresseurs pouvaient un tant soit peu canaliser. Je reviens sur une existence qui commence avec ce jour où ma vie prend un tournant décisif. Le mal-être, sans en connaître les causes profondes, égaré dans un monde dont j'ignore les codes, j'allais d'échec en déception. Ne pas être acteur de son existence, mais la mimer à l'aune des regards, des réflexions. Arrête donc de dandiner quand tu marches, on dirait une gonzesse. Alors je roule les mécaniques. Tu ne peux pas choisir ses vêtements, tu ne vois pas que tu es au rayon des filles. Ah non, je ne m'en ai pas aperçu. Je rougis. J'ai honte. Alors, adolescence, je prends la tangente. Je veux être une star du rock. Je joue de la guitare dans un groupe punk. Une crête, des creepers, sans cuir, t-shirt déchiré, épingle à nourrice. Ça fait mauvais genre, me dira ma mère. Mauvais genre. C'est peut-être bien ça le problème. Mais la vie fait son chemin, j'avance avec elle. Je ne trace pas ma route, je suis les chemins balisés par d'autres. Je travaille, je me marie, j'ai des enfants et des crédits. Ça, c'est normal. Ça fait pas mauvais genre. C'est comme ça que ça marche pour la plupart des gens, mais pas pour moi. Il aura fallu peu à peu, que peu à peu, tout ce qui faisait ma vie d'alors s'éloigne de moi. Travail, burn-out, famille, divorce, amis, pour que je prenne conscience que je ne peux plus simuler, qu'il faut faire tomber le masque, parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus rien à perdre. Si je ne suis pas un homme, alors je suis une femme, c'est une évidence. Comme le dit mon médecin à ce moment, ou face à lui, je ne sais comment exprimer ma confusion, lui disant que je ne me sentais pas vraiment homme, par pudeur, par honte d'avouer ma transidentité. Et au sortir de cette consultation, j'ai troqué les antidépresseurs pour un traitement hormonal. Un traitement hormonal de substitution, THS. J'ai troqué mes angoisses pour un formidable espoir d'aller vers ce que je suis, et très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas la femme que je devais chercher, mais faire émerger en moi cette identité singulière, lui laisser la place, lui offrir la possibilité d'exister. Cette démarche est une maïeutique. Des décennies de gestation pour enfin se nommer, se prénommer, apprendre à vivre selon d'autres codes, faire connaître et reconnaître, se faire connaître et reconnaître, comme une naissance à soi, une reconnaissance de l'autre. Du coup, je vais tout réapprendre. On ne va pas élever comme une fille. Il se passera 8 mois avant que j'ose sortir dans ce nouveau genre. On me regardera, me dévisagera, on me jugera, comme une incongruité dans le paysage urbain. Jusqu'au jour où, entrant dans une boutique, j'entendrai ce « Bonjour, madame », tant espéré. Ça y est, j'ai réussi mon passing. Mais lors de l'interaction verbale, la voix me trahissant, le « madame » disparaît. Et mon sourire aussi. Combien d'efforts n'ai-je pas fait pour exister dans ma féminité aux yeux des autres ? Et pourtant, ce sentiment d'illégitimité perdure, quoi que je fasse. Ce sentiment d'usurper un rôle, d'avoir quitté une scène pour une autre dans cette comédia dell'arte qu'est l'espace public. Ça commence par le coming out, l'expulsion d'une douleur, un cri qui prend le risque d'être entendu. C'est espérer beaucoup pour les retours qui apaisent ou nous claquent au visage et nous blessent. À ce moment-là, on croit jouer à pile ou face, mais il n'en est rien, parce que rien n'est joué. Chaque faux pas peut nous renvoyer dans l'enfer du doute. Et des faux pas, il y en a eu beaucoup. Quand on revit une puberté, l'effet du traitement hormonal, il n'y a pas que l'effet sur le corps. Les émotions en font des démonstrations que nous aimerions effacer de la mémoire collective, de grands moments de solitude. J'entends encore ma mère me dire « Tu vas pas mettre cette robe, elle est bien trop courte. » Ça fait mauvais genre. Les antidépresseurs ont fait place aux hormones. Le mal-être a disparu, mais le quotidien est devenu difficile. Quand on fait mauvais genre, il ne faut pas s'attendre à générer de la mansuétude, ni même de la bienveillance. Je baisse la tête et rase les murs. J'entre dans une clandestinité ostentatoire. Une vaine tentative de ne pas être lu et en faire un peu trop pour vivre aux yeux des autres. Les personnes trans doivent être visibles. Pour qu'à terme, l'espace public s'habitue à notre présence. Mais être visible, c'est s'exposer à la violence de celles et ceux que notre présence dérange. Alors, face aux difficultés que vivent mes semblables, je ne peux rester indifférente, je vis la même chose. Je milite, je crée une association, je décide de me battre, je porte un badge, trans and proud, trans et fier. Peu à peu, je redresse la tête et sors du caniveau. Je retrouve un travail en mission locale, jusqu'au jour où je fais l'objet de menaces de mort, de la part de voyous qui me trouvaient mauvais genre. Alors je m'installe à mon compte et petit à petit parviens à en vivre. La militance m'a beaucoup aidé. J'ai retrouvé une vie sociale et rencontré des personnes formidables. Il y a mes pères, de nouvelles amies, un équilibre qui s'installe laborieusement mais en crescendo. Un changement d'état civil, et c'est officiel, je suis Siane. Un F apparaît sur ma carte d'identité, et pourtant, je ne me sens toujours pas à l'aise avec ce genre administratif. Je ne souffre pas d'incongruence de genre. C'est la notion de genre qui me semble incongruente. Je fais une petite parenthèse, puisqu'il est question d'état civil, et pour attirer votre attention sur la question des changements de genre et des changements de genre, ça ne se produit pas pour les enfants, enfin pour les ados, pour les jeunes, mais pour la question du prénom, oui. Pour obtenir son changement de prénom à l'état civil, il faut avoir l'autorisation de ses parents quand on est mineur. Donc en fait, ça renvoie à une question importante qui est l'autorité parentale face aux enfants qui ressentent ce trouble identitaire, ce trouble de la transidentité. Et la question que je pose ici, c'est l'autorité parentale peut-elle encore être invoquée lorsqu'il y a maltraitance ? Et est-ce que ce n'est pas maltraitant que de faire obstacle à l'identité de genre d'un enfant ? Tous les rapports et études sur le coming out démontre que le lieu où s'exerce le plus de violence homophobe ou transphobe, c'est la famille. La transition, pour revenir sur ce sujet, n'est pas qu'une métamorphose du corps, hein, c'est également une métamorphose de la pensée. C'est une sinuosité dans la perception de soi, une disruption dans le rapport à l'environnement. Alors commence la réécriture de sa propre histoire avec ce nouveau paradigme qu'au final, je vivais mon genre par contrainte et qu'il me fallait chercher des indices qui auraient pu m'indiquer que ce genre assigné n'était pas le mien. Évidemment, il est facile de trouver ces indices rétrospectivement, qui deviennent des certitudes dans une perspective où si ce n'est pas blanc, c'est forcément noir, et on n'imagine même pas qu'entre les deux, il puisse y avoir autre chose. Il y a ce jour où, dans mes jeux d'enfants, j'endossais un rôle féminin, mon souvenir le plus précoce, je devais avoir 4 ou 5 ans, à peu près. Il y avait aussi cet avatar qui était qu'un ersatz virtuel de mes fantasmes dans ce divertissement en ligne. Ces remarques que mon entourage m'adressait sur ma démarche chaloupée, majestuelle, empreinte de préciosité. Ce temps si long passé devant les vitrines de vêtements féminins dans lequel mon imaginaire se glissait avec délice. Ces colibés, ce mademoiselle que je faisais semblant de désapprouver mais qui secrètement me troublait. Et tant d'autres choses pour confirmer après coup que mes transitions se justifiaient. Mais en fait, c'est la nature de mon être que je cherchais à justifier par défaut. Comme cette question que l'on se pose également par défaut à l'adolescence, me dit-on, tous les enfants se cherchent et s'interrogent sur leur genre. On entend ça. Tous les enfants à l'adolescence se posent des questions sur leur genre. On peut faire une petite expérience ici même. Qui parmi vous s'est posé la question de son genre à l'adolescence? Voyez, c'est QFD. Non. Les enfants ne se posent pas cette question. Et s'ils se posent cette question, c'est qu'elle mérite d'être posée et qu'elle s'impose à eux. Alors ce voyage qui va d'une rive à l'autre n'offrirait-il pas des chemins de traverse? On pourrait imaginer suivre le courant d'un fleuve ne débouchant pas sur un estuaire libérateur, mais un delta, dont les méandres nous offrent de multiples possibilités, un champ expérientiel qui nous perfore et qui nous performe. C'est le pas de côté qu'il faut oser faire pour s'offrir un point de vue différent qui oblige à sortir de la norme, s'affranchir de la doxa, ouvrir une porte vers l'inconnu sans connaître à l'avance la destination, si tant est qu'il y en eût une. Il n'y a pas si longtemps, les étapes du parcours de transition étaient linéaires. On commençait par une consultation auprès d'un psychiatre, puis une expérience de vie réelle, d'environ 6 mois, donc dans le genre de destination qui permettait d'accéder ensuite au parcours médical, et ce n'est qu'après une opération de réassignation qu'il était possible de changer d'état civil. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'une personne a vécue, c'était en 2010, donc avant le changement de loi au niveau de l'état civil. Une personne, dont trans, femme, se présente devant le juge pour obtenir son F sur sa carte d'identité. Et le juge, évidemment, lui demande des preuves comme quoi elle a subi une opération de réassignation. Elle lui donne le document du chirurgien, mais ça ne lui a pas suffi. Le juge demande donc la nomination d'un médecin expert pour vérifier effectivement si l'opération a bien eu lieu. Et que va-t-il demander au médecin expert? Il va demander de vérifier la profondeur de son vagin pour voir s'il est conforme. Vous me direz, expliquez-moi ce qu'est un vagin conforme. Ce qui signifie que ce juge demande à un médecin de pratiquer un viol médical. Alors aujourd'hui, dans l'accompagnement et la transition, il n'est plus question de proposer des formules standardisées et linéaires. Chaque parcours doit être aujourd'hui individualisé, bien que certaines équipes pratique encore le protocole linéaire qui avait été mis en place par la HAS en 2009 et la SOFACT. Donc, si on veut avoir une approche de l'accompagnement aujourd'hui, ça nécessite un diagnostic, mais pas un diagnostic médical, évidemment, on part sur un principe d'autodétermination, mais un diagnostic social et environnemental. C'est placer la personne au centre de son environnement familial, amical, professionnel, éducatif, et observer l'impact de sa transition sur chacune des composantes pour proposer un parcours le plus fluide possible, tant dans l'espace que sur la pertinence des temporalités. Je n'ai, pour ma part, pas le moindre doute sur la nécessité d'avoir commencé une transition. C'était ça ou mourir. Et quel que soit le prix, je recommencerais s'il m'était offert la possibilité d'un retour en arrière. Et ce n'est qu'au terme de cette transition, donc 10 ans plus tard, que je me rendis compte qu'il pouvait y avoir une alternative, une autre vision, une autre évidence, un cheminement jalonné d'interrogations qui remet en question le genre et vient bousculer ses fondamentaux jusqu'à le faire disparaître. À présent, je ne cesse de me dire qu'il est bon de s'affranchir du genre, de ne plus subir d'injonctions à se conformer à des stéréotypes, qu'il est libérateur de s'autoriser à les dépasser, s'autodéterminer pour trouver sa place dans une zone qui n'appartient qu'à soi, qui s'harmonise corps et âme en une entité unique et singulière. Alors comment expliquer que ce n'est qu'après l'opération de réassignation que j'ai développé cette approche qu'on pourrait qualifier de peut-être non-binaire. En dépit de la douleur liée à des complications post-op, dont je vous passerai les détails, j'ai tout d'abord ressenti un apaisement. Puis j'ai commencé à prendre conscience aussi de la colère qui était la mienne durant ces années de transition. La violence de certains de mes propos. L'intransigeance dont je faisais preuve à l'égard de tout ce qui n'était pas de nature à accepter et respecter mon identité de genre. Mes proches en ont beaucoup souffert. Beaucoup d'entre eux sont éloignés de moi, tant j'en devenais insupportable. Il m'était facile de faire passer cette colère pour de la militance. J'étais président d'une association. Je me battais pour une cause juste, mais ce combat était surtout l'occasion de sortir toute cette rage accumulée par le déni de ma transidentité et le mensonge à moi-même, puis l'obscurantisme et la transphobie réelle ou supposée de mon entourage, des administrations, du corps médical. J'imaginais avoir atteint mon objectif, bien sûr, transition administrative validée, changement d'état civil, transition sociale effective depuis de nombreuses années, et toujours cette volonté tendue sur ce but ultime qu'est la fin de transition et la reconnaissance de mon identité féminine. Mais alors que celle-ci aboutissait, je ne parvenais toujours pas à me définir en tant que femme. Il a fallu que j'apprenne à apprivoiser ce nouveau genre, cette identité de femme trans, dont la définition ne me convient pas davantage que non-binaire, hein, ou même agenre. Mais dès qu'on cherche à s'émanciper des étiquettes, on s'empresse d'inventer un mot qui nous y renvoie peut-être parce qu'il faut nommer les choses pour qu'elles existent. Ma profession m'a aidé à comprendre ce que je ressentais vraiment et pourquoi il m'était si difficile d'entrer dans une de ces cases. On vous l'a dit, je suis consultante sur les questions de transidentité et donc je propose des formations sur cette thématique. Or, plus j'ai avancé dans le récit de mes interventions, plus je me rendais compte que la question du genre est une base sur laquelle s'appuie un système d'oppression qui stigmatise et discrimine d'abord les femmes, et particulièrement les personnes dont le genre ne correspond pas à une vision cis-normée. De fait, en tant que femme, j'ai abandonné ma situation dominante de mâle blanc pour endosser un rôle qui suscite l'incompréhension, parfois la haine, souvent le dégoût, sans qu'il soit possible d'apporter une raison objective à l'expression de ces sentiments, si ce n'est une accumulation de préjugés plus ou moins douteux. Et pourtant, je me sens riche d'une expérience de vie incroyable qui m'a obligé à me dépasser, à faire front, me réconcilier avec moi-même et y trouver quelque part mon humanité. J'entends parfois des personnes trans dire qu'elles ne sont pas nées dans le bon corps. et je dois avouer qu'il m'est arrivé de le penser sans trop savoir pourquoi. Il me semble que cette affirmation n'a qu'une utilité, légitimer sa transidentité. Finalement, ce n'est pas ma faute, puisque dès le départ, je ne suis pas né dans le bon genre. Les autres comprendront, me plaindront, et peut-être feront-ils preuve d'empathie. Remplacer la culpabilité par « c'est la faute à personne », « c'est la faute à pas de chance », à bien y réfléchir, il n'y a aucune faute. Il y a juste une opportunité à saisir ou une malédiction à subir. Et s'il faut choisir, la réponse me semble évidente. Ce corps est le mien. Il l'a toujours été. Il est ce que je suis, avec ses cicatrices, ses rides, ses imperfections, ses douleurs, son vécu, mais ses joies aussi. Il est ce que j'en ai fait dans les limites de ce que la chirurgie autorise. Alors depuis, je suis devenue une voyageuse du genre, jamais tout à fait d'un côté, ni jamais vraiment de l'autre. Sans choisir mon camp, je suis là où s'ouvre le champ des possibles, ailleurs, là où la question ne se pose plus, mais qui pose question. En quoi cette relation intime entre moi et mon genre fait problème au niveau sociétal ? Si ce n'est parce qu'elle bouscule une forme de domination séculaire, ce que l'on nomme ordre naturel, et qui, en soi, n'a pour seule raison d'être que d'entretenir une aliénation normative et manichéenne d'amalgame entre le sexe et le genre. La normativité qu'on impose au genre est un instrument d'exercice de pouvoir sur les corps. Et je citerai Judith Butler, « Définir une identité en des termes culturellement disponibles revient à poser une définition qui exclut à l'avance la possibilité que de nouveaux concepts de l'identité émergent dans l'action politique. » Fin de citation. Mais la norme n'est pas figée. Elle est mouvante, fluctuante. Elle est le fruit d'une histoire. Ailleurs, il existe des genres alternatifs dans de nombreuses cultures. On peut citer les Hijras en Inde, les Mouchés au Mexique, les Maou de Polynésie, les Tuspiluits d'Amérique du Nord, massacrés par les colons, car leur mœurs était jugée contraire à une religion qui s'imposait par le glaive, à défaut de pouvoir s'imposer par ses vertus et sa bienveillance. Lorsque la norme s'enracine dans la pensée, elle se sclérose, dans une doxa mortifère, discriminante et dangereuse. Elle en vient à justifier les pires atrocités, à déculpabiliser l'oppresseur. Ce sont près de 500 personnes trans qui le paient de leur vie chaque année, et ce ne sont là que les chiffres des pays occidentaux. C'est 50% des personnes trans qui attendent à leur vie parce qu'elles ne trouvent pas le moyen de vivre sereinement et dignement. Il faut bien des boucs émissaires pour pallier aux égarements de nos sociétés, aux existences vides de sens et remplies de haine qu'alimente l'obscurantisme ambiant. J'en veux pour preuve la polémique en cours aujourd'hui sur le mouvement woke. Le mot woke correspond en français à éveiller. Il trouve sa signification dans le fait d'être conscient des injustices sociales et des inégalités raciales. En fait, il pourrait parfaitement s'accorder avec la devise de la République française, prônant la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout ceci au nom d'un universalisme qui ne pourrait s'exprimer qu'en prenant la forme d'une uniformité bien pensante. Mais l'universel est pluriel. Il n'existe que dans la singularité de ces diversités. Ces polémiques gangrènent le monde de la recherche à tel point que pour aller vers cet universel, acceptant la singularité, une désobéissance épistémique devient nécessaire. L'uniformité n'est qu'un leurre. Elle n'existe ni ne peut exister que dans des fantasmes totalitaires et aliénants. Je suis woke, car je me suis éveillé à moi-même, en passant d'un rôle calibré de mâle alpha au statut de femme trans. Et ce fut une mise en abîme de la fragilité de mes privilèges et dans ma chair de sentir le goût amer des discriminations. Mais ce faisant, j'ai interrogé mes déterminants, mes préjugés, mon éducation. Après tout, si on peut remettre en cause son genre, pourquoi ne pas tout remettre en cause ? Se poser la question qui fait peur, tant la réponse s'emmène sur des chemins hasardeux, dangereux pour l'équilibre de sa construction personnelle, mais nécessaire, selon moi, que tout le monde peut-être devrait se poser. Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Je sais ce qu'on a voulu faire de moi, et je sais qu'il fallait m'en libérer. Pour le reste, l'aventure continue. Être une personne trans, c'est se positionner de l'autre côté de l'histoire, de l'autre côté de celle qui est écrite par celles et ceux qui définissent ce qui est acceptable et propose une narration conforme à l'image qu'ils ou elles se font de la norme, une norme qui leur ressemble. Les transidentités nous invitent à redéfinir ces contours, dépasser ces frontières afin d'offrir un espace de liberté où chaque être trouvera sa zone de confort en sortant de son apparente binarité, s'offrir la possibilité d'être unique en son genre. C'est peut-être cette invitation au dépassement que réclame chaque individu en ce monde, pour savoir où est sa place et s'il lui est possible d'en changer, quel sens il ou elle donne à son existence et ce qui rendra cette existence magnifique. Sortir de la binarité, s'affranchir de cette norme imposée par le patriarcat, s'affranchir des systèmes de domination et s'affranchir du genre pour qu'il n'y en ait jamais plus de mauvais. Je vous remercie de votre attention.